Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Iseut Sicard et Thibaut Affringue. À la réalisation, Alexandra Candy-Longuet, à la technique, Jacques Hubert. Aujourd'hui, nous quittons le 21e siècle, direction le Moyen-Âge.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
L'épidémie que l'on traverse depuis près de 3 mois marque le grand retour de l'État dans l'économie. L'histoire est ainsi faite de va-et-vient entre intervention et désengagement. C'est ainsi que dès le début du XIVe siècle, Philippe le Bel se lance dans la création d'une monnaie royale qui serve de référence et lui permette de maîtriser les cours. Des manipulations qui lui valent une réputation de roi faussaire. Il est 14h sur France Culture et l'écho des rois maudits est parvenu jusqu'à nous. Nous allons sillonner le royaume de Philippe le Bel en compagnie de Sylvain Piron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, médiéviste, directeur de recherche à l'EHESS, spécialiste de l'histoire de la pensée économique. Et d'abord, on va commencer par une devinette. Quelle est la phrase qui désigne Philippe le Bel dans cet extrait de la Divine Comédie de Dante? Écoutez bien.
Que ne pourront dire les Perses à vos rois lorsqu'ils verront ouvert le livre dans lequel s'écrivent toutes leurs hontes? Là se verra entre les œuvres d'Albert celle qui bientôt remuera la plume et par laquelle sera dévasté le royaume de Prague. Là se verra la désolation qu'en falsifiant la monnaie amène sur la scène celui qui mourra frappé par un porc. Là se verra la soif d'orgueil qui rend si insensé l'Écossais et l'Anglais qu'aucun d'eux ne peut se contenir au-dedans de ses limites. Se verra la luxure et la vie molle de celui d'Espagne et de celui de Bohême qui jamais ne connut ni vaillance, ni vouloir. Se verra l'avarice et la lâcheté de celui qui garde l'île de feu, où Anchise termina son long âge. Et à chacun apparaîtront les sales œuvres de l'oncle et du frère qui ont déshonoré une race si illustre et deux couronnes.
Philippe le Bel, selon Dante, c'est le roi faux-monnayeur, Sylvain Piron?
Oui, évidemment, c'est la grande image qui a été accolée à ce roi. Dante lui a donné un écho, c'est pas lui qui l'a inventé, parce qu'effectivement, c'est un des aspects les plus choquants de son règne, c'est le roi qui a trahi la valeur de la monnaie, qui a anonymisé la quantité d'argent, de métal précieux qui était contenu dans les mêmes pièces. Donc les mêmes pièces, au fur et à mesure d'une décennie, entre 1295 et 1305, contenaient de moins en moins de métal. Et donc c'est à ce titre-là que voilà, qu'il a falsifié au sens très fort, il a vraiment fait croire que sa monnaie était la même alors qu'elle avait changé de quantité de valeur.
Et c'est pour cela que Dante écrit « Là se verra la désolation qu'en falsifiant la monnaie amène sur la scène celui qui mourra frappé par un porc » car effectivement Philippe le Bel est mort à la chasse.
Oui, c'est ça, il est mort à la chasse. Donc le poète a accentué un petit peu la disgrâce de la chute de cheval. Évidemment, c'est pas un porc, mais sans doute un sanglier qui l'a fait tomber de cheval. Mais c'est une façon, encore une fois, d'abaisser ce roi trompeur, qui, par ailleurs, aux yeux de Dante, avait ce grand tort d'avoir été un roi opposé au pape, ennemi du pape.
On va revenir, bien sûr, sur cet épisode de dévaluation monétaire, mais d'abord, un mot de contexte. Le règne de Philippe le Bel se situe entre l'âge d'or supposé du règne de Saint-Louis et des cathédrales et le début de l'ère des catastrophes marquées par la guerre de Cent Ans, la peste noire et les famines, Sylvain Piron?
Alors, c'est à grands traits, effectivement, comme ça qu'on peut le voir à distance, mais si on prend une autre perspective, celle de la construction de l'institution monarchique française, au contraire, c'est un moment, non pas de transition, mais un moment d'accumulation primitive du pouvoir royal. C'est le moment de transformation de la forme de gouvernement, de maîtrise du territoire par un roi, la création d'une administration. Et à ce titre-là, c'est vraiment la base de l'histoire de l'État français, dont ce qu'il a aussi d'assez occupation avec, la question des Templiers et le pouvoir policier dans cet État.
Ce pouvoir royal centralisé émerge dès le début du XIIIe siècle avec Philippe Auguste et se poursuit sous Louis IX, qui est le grand-père de Philippe le Bel.
Alors c'est ça, voilà. Peut-être pour mieux situer les choses, il faut rappeler quel est le processus que le roi de France ne domine pas nécessairement l'ensemble du royaume. Le royaume de France, en réalité, c'est quelque chose qui est découpé historiquement de l'Empire carolingien, donc bien avant, hein, au Xe siècle, dans les différents partages qui ont été faits. Au Xe siècle, se reconstitue, dans ce qui est maintenant les territoires germaniques, hein, d'Allemagne, un nouvel empire, et il est laissé de côté la partie occidentale. Donc, tout ce qui est à l'ouest du Rhône, de la Saône, de la Meuse, de l'Escaut, hein, cette partie occidentale est désignée par défaut comme le royaume de France, mais qui n'a pas de vraie unité politique pendant très longtemps. Et c'est effectivement uniquement à partir de Philippe Auguste, donc à la fin du XIIe siècle, dans les années 1980, et que commence un processus qui fait des Capétiens, qui sont les titulaires de ce titre de roi, mais qui font principalement le sommet hiérarchique d'un ensemble de liens de dépendance féodaux, qu'on lui rend hommage sans que les autres seigneurs, barons ou comtes au sein du royaume rendent hommage au roi sans que le roi ait forcément un pouvoir à leur imposer. Donc c'est ça qui se transforme progressivement à partir de Philippe Auguste. Dans la première moitié du XIIIe siècle, il y a cette grande prise de contrôle du midi de la France à la suite de la croisade, ce qu'on appelle la croisade des Albigeois, qui est sous un prétexte d'hérésie supposée, une invasion du sud de la France par des seigneurs d'Île-de-France, hein, donc tout le Languedoc le midi, avec là aussi des opérations violentes, hein, et beaucoup de massacres. Ce pouvoir se construit par les massacres, hein, c'est une caractéristique assez constante de la construction des États. Et Philippe le Bel hérite un royaume en cours, alors c'est pas d'unification dans le sens où il y a encore beaucoup de parties du royaume qui ne sont pas sous le contrôle du roi, mais un royaume dans lequel le roi de France pèse nettement plus fort que l'ensemble des autres seigneurs.
Philippe le Bel qui arrive sur le trône en 1285, il a alors 17 ans et il arrive au pouvoir dans un contexte de guerre.
Dans un contexte de guerre, effectivement, parce qu'il il devient roi quand son père meurt à la guerre à Perpignan, dans une guerre contre les Aragonais. Donc il y a aussi un autre grand conflit, enfin il y a plusieurs conflits qui divisent l'Europe à l'époque. Il y a ce grand conflit entre les Aragonais et le royaume angevin de Naples. Alors angevin parce que c'est Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, qui a été chargé par les papes de prendre le contrôle du royaume de Naples, dans les années 1260, pour être assez complexe. Donc il y a une tension en Méditerranée, et la France y intervient, mais la France a aussi, le royaume a une épine dans le pied, qui est que toute une grande partie de l'Aquitaine est encore une possession directe des rois d'Angleterre. Ce qui sera le point de départ de la guerre de Cent Ans, et une des grandes guerres de Philippe le Bel concernera la Guyenne, donc autour de Bordeaux. Et l'autre grande guerre sous Philippe le Bel concerne la Flandre, donc au nord, et qui, du fait du découpage entre l'Empire et le Royaume de France, appartiendrait au Royaume de France, mais se révèle une possession tout à fait rebelle, et que les Français doivent abandonner pour une grande partie. Donc c'est une autre grande guerre, une guerre qui coûte très très cher.
Selon l'écrivain et résistant Maurice Druon, Philippe IV est le premier des rois maudits. C'est cette série de romans qui a contribué à faire connaître ce Moyen-Âge plutôt méconnu, Sylvain Piron ?
Oui, tout à fait, les rois maudits, c'est la grande référence visuelle qu'on a. N'oublions pas que Le nom de la rose d'Umberto Eco se passe aussi dans des époques assez proches. Hein. Mais effectivement, Philippe le Bel et ses fils sont donc les derniers Capétiens directs, hein, puisque les trois fils de Philippe le Bel meurent sans descendance masculine. Sa fille a épousé un roi d'Angleterre, et donc c'est là cause de la contestation du trône de France par les Anglais, par les rois anglais, et donc la cause directe de la guerre de Cent Ans. Donc c'est effectivement la source de troubles, de malheurs, et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle dynastie qui sont les Valois, hein, qui sont des cousins. Donc effectivement, c'est une image très sombre, mais qui reflète bien ce moment de tension, de nouveauté, d'innovation, d'un pouvoir politique qui prend un nouveau visage. Je crois que c'est ça l'élément essentiel.
La saga historique de Maurice Druon a été adaptée à la télévision en 1972.
La France est alors le plus puissant des royaumes d'Occident. Le roi a une réputation de beauté légendaire qui s'accole à son nom. Il est, il restera Philippe le Bel. Auprès de lui, ses trois fils, tous trois majeurs, Louis de Navarre, dit le hutin, ou si vous voulez le disputeur, le confus, Philippe, comte de Poitiers, et Charles de France, tous descendent au deuxième, troisième ou quatrième degré du roi Louis IX ou de son père. Ils sont la race de Saint-Louis. Pour Philippe le Bel, la grandeur de la France prime tout. Il a découragé tous ses ennemis extérieurs. À l'intérieur, aucune richesse n'échappe à sa main. Dévaluation des monnaies, spoliation des fortunes, impôts écrasants. Tout doit s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale.
Cette réputation de souverain dominateur est-elle justifiée, Sylvain Piron ?
Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de contestation possible si on en juge par le nombre d'actions, coercitives menées sur différents plans, le nombre de procès, d'exécutions, etc. Donc non, c'est vraiment un moment très fort, je disais, accumulation primitive du pouvoir politique, hein, c'est vraiment ça. C'est le moment où, pour la première fois, un roi veut essayer de montrer qu'il exerce le monopole du pouvoir dans son territoire.
Et pour cela, il s'entoure de légistes, des conseillers qui sont formés au droit civil ?
Voilà, notamment, oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc on a beaucoup parlé de ces légistes, hein, ils jouent un rôle aussi dans Les Rois Maudits, ces personnages qui ont pour particularité, pour certains, alors certains sont nobles, mais certains ne sont pas nobles, mais d'avoir des personnages, des bourgeois qui prennent un ascendant sur des comtes, des évêques dans la discussion politique. Et ça, c'est vraiment un des signes les plus nets de la transformation. Si on passe d'un mode de gouvernement qui était le conseil du roi, le roi est entouré de ses grands vassaux et de ses évêques qui le conseillent, ce qui est la pratique traditionnelle féodale, à un mode de gouvernement avec des administrations séparées. Où progressivement, les membres du conseil n'ont plus le monopole de la décision, où ils chapeautent de façon, ils ont des fonctions pour chapeauter différentes institutions. L'une qu'on appelle le Parlement, qui est un tribunal qui juge en appel les causes qui remontent au roi, et une autre institution très importante qui apparaît au début du XIVe siècle, c'est la Chambre des comptes, qui est là pour vérifier les comptes de tous les agents royaux. Et tous les agents, donc les sénéchaux et baillis, qui sont l'équivalent des préfets aujourd'hui, qui représentent le roi dans les différentes parties de son royaume, viennent deux fois par an présenter leurs comptes et sont examinés, sont entendus par la Chambre des comptes, qui peut même exercer un certain contrôle sur les dépenses. C'est pas encore vraiment un contre-pouvoir, mais donc il y a une sorte d'administration qui a un début d'autonomie, disons, d'une logique propre d'administration. C'est à ce titre-là qu'on peut voir quelque chose comme un début de l'État. On n'emploie pas encore le mot, c'est un mot du XVIe siècle, mais il y a quelque chose qui commence à se constituer.
Et comme les souverains avant lui et les souverains après lui, Philippe le Bel manque d'argent, il faut remplir les caisses de l'État. Quelles sont alors les taxes qui existent, Sylvain Piron ?
Alors, c'est très compliqué. Il y a des redevances féodales. Donc, il y a le roi a un revenu de ses domaines. C'est ce qu'on appelle en tant que seigneur, donc possesseur des terres, il a des revenus qui lui reviennent, donc ce qu'on appelle le domaine du roi. Mais s'il veut exercer une taxation plus générale, il doit convoquer des assemblées, obtenir des accords, ce qui est assez complexe. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la monnaie sera une très grande ressource pour financer les guerres, et même on a calculé qu'on estime que pour la première moitié du règne, c'est presque plus de la moitié du revenu royal qui provient de la monnaie, la planche à billets, mais c'est un peu ça. Une autre façon qui est importante et qui suscite une grande tension, c'est de taxer le clergé. Et alors c'est une chose qui existe, qui est aussi prévue de façon habituelle dans les situations exceptionnelles, notamment pour les croisades. Les seigneurs, les princes peuvent taxer les églises de leur territoire.
C'est la décime.
C'est la décime, voilà. La décime, c'est un dixième des revenus des églises qui sont reversés au roi. Alors c'est par là que commence Philippe le Bel en 1294, à le début de la guerre de Guyenne, et c'est ce qui suscite l'opposition de la papauté, du pape Boniface VIII, qui sera le grand adversaire de Philippe le Bel. Donc il y a aussi tout un conflit qui se joue sur cette question de la taxation des églises et d'empêcher les églises françaises, les ecclésiastiques, les maisons religieuses, de verser ce qu'ils doivent à Rome.
Mais comme vous le disiez, ces rentrées d'argent ne permettent pas à Philippe le Bel de poursuivre ses ambitions, d'autant qu'il faut financer la guerre contre le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui s'est allié à la Flandre.
C'est ça, voilà. Enfin, la guerre commence entre le roi de France et le roi d'Angleterre, et le comte de Flandre s'allie au roi d'Angleterre. C'est pour ça que la guerre est menée sur deux fronts, avec plusieurs dizaines de milliers de soldats qui sont mobilisés et qu'il faut rémunérer. Il y a un coût très important. Et c'est pour payer cette guerre que la solution qui est choisie en 1295 est justement d'affaiblir le contenu des pièces de monnaie. C'est ça la solution la plus simple. Et c'est à partir de cette opération qui est un petit peu un expédient financier que progressivement s'invente en l'espace de 15 ans à peu près. Le roi comprend, le roi et ses conseillers et son administration comprennent l'enjeu du contrôle de la monnaie et l'importance d'exercer un contrôle sur l'ensemble de la circulation, de la frappe et de la circulation monétaire dans le royaume.
Et alors justement, quelles sont les monnaies qui circulent en France en cette fin du XIIIe siècle ?
Alors pendant longtemps en Occident, on n'a utilisé que des petites pièces de monnaie, ce qu'on appelle le denier. Alors, il y a un système hérité de l'époque romaine qui reste un mode de compte, même si les pièces ne sont plus équivalentes à ces unités de compte, en deniers, sous et livres. Donc, c'est des modèles qui restent. Hein, le système monétaire anglais est encore le denier, c'est le penny, et la livre est toujours là. Et le sou, c'est le shilling. Hein, donc on voit bien que c'est une très très longue durée de ces unités monétaires. Mais pendant longtemps, les frappés ne circulent que des petites pièces d'un denier qui ont des valeurs différentes selon les régions, qui sont émises par différentes autorités, qu'on reconnaît à leur type qui les associe à une région.
C'est ça, elles sont frappées, ces deniers sont frappés localement, mais ils circulent parfois à une échelle assez large.
C'est ça, tout à fait. Alors par exemple, les foires de Champagne, qui est un des grands lieux du commerce au XIIIe siècle, facilite la circulation du denier provinois, et le denier de frappé à Provins, donc un ancien nom actuel, et à certaines époques, la monnaie de référence à Rome. Donc il peut y avoir vraiment des grands flux de circulation de différents types de monnaie, mais ces pièces sont utilisées surtout pour des petites transactions. Pour le grand commerce, on utilise des plaques de métal, des lingots. Donc c'est de l'argent qui n'est pas, enfin de la matière argent ou de la matière or qui n'est pas monnayée. Et la nouveauté du milieu du XIIIe siècle, c'est la reprise de la frappe d'une part de l'or, des pièces d'or, à Gênes et à Florence en premier lieu, puis de pièces plus grosses qui ont ce qu'on appelle les gros, qui ont une valeur de 12 deniers. Et en France, dans le royaume de France, il y a deux unités monétaires. L'unité de Parisie, le denier Parisie, mais celle qui est la plus, donc qui est frappée à Paris, mais celle qui est la plus utilisée, c'est la monnaie de Tours, alors qui est frappée par le roi de France depuis Philippe Auguste, mais qui, pour certaines raisons, s'est répandu davantage à la fois dans l'ouest et dans l'est de la France. Donc c'est ce denier tournois qui est la monnaie de référence, et le gros tournois est une nouveauté de Saint-Louis et que continue à frapper Philippe le Bel. Donc c'est l'affaiblissement des gros tournois, donc la diminution de la quantité de monnaie dans la même pièce, qui est le scandale. Il faut bien se rappeler, si on revient sur Dante, à cette question, c'est vraiment, il y a une dimension symbolique dans la monnaie. La monnaie est à l'image du roi et c'est un signe de vérité, et c'est l'indication que le roi lui-même a une fonction symbolique de garant de la justice. Et si le garant de la justice triche, c'est tout le monde qui est renversé.
Et c'est aussi, la monnaie joue aussi un rôle d'identification à la communauté nationale, tant à l'intérieur de l'espace national, même si vous l'avez dit, on ne parle pas encore d'État, que vis-à-vis de l'extérieur.
Alors là, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est le début. Effectivement, c'est le début, ça va venir dans le courant du XIVe siècle. On voit certaines pièces qui ont des identifications un peu plus fortes. Il y a une des pièces d'or qui représente la couronne royale, par exemple. Cet élément joue, mais on n'en est pas encore à ce niveau-là. Il faut, avant d'avoir l'identification, là, il faut vraiment construire le territoire, construire l'idée même que la monnaie ne doit circuler que à l'intérieur des la monnaie du roi est la seule qui circule dans les frontières du royaume. Et c'est ça, un des grands enjeux des pratiques monétaires de Philippe le Bel.
Qu'est-ce qui est à l'origine du désir de monnaie ? Je vous propose d'écouter l'économiste André Orléans, invité de la Grande Table sur France Culture.
Il faut bien comprendre que la monnaie, c'est pas comme une marchandise. C'est autre chose qu'une marchandise. C'est quelque chose qui est de l'ordre du collectif. C'est de l'ordre du lien social. C'est la collectivité qui, à un moment donné, se reconnaît dans un signe et qui le définit comme le désirable absolu, puisque tout le monde veut de la monnaie et le capitalisme veut accumuler de la richesse. Et c'est ce désir pour la monnaie qui est constitutif d'un groupe, et dans un groupe se reconnaît dans une monnaie donnée, l'euro ou bien le dollar selon les territoires. C'est ça l'événement central dans la définition monétaire. Donc ça me permet de m'opposer à une autre vision qui est assez traditionnelle, c'est celle qui est pensée que la monnaie aurait une valeur intrinsèque, comme ça a pu être, on a pu le penser pour l'or. En fait, jamais les monnaies sont liées à, c'est pas le métal qui compte. Même dans le cas de l'or, ce qui comptait, c'était le désir monétaire qu'on avait pour l'or, en tant que monnaie, pas en tant que métal. Donc c'est toujours quelque chose qui est une production de l'économie, de l'économie marchande, qui se reconnaît dans un signe de valeur.
Sylvain Piron, que vous inspire ces propos d'André Orléans ?
Écoutez, André Orléans est un collègue avec qui j'ai à la fois beaucoup de certaines affinités, mais pas différents, mais disons un petit désaccord depuis très très longtemps, puisque je pense qu'il ne comprend pas très bien, enfin il ne veut pas avoir cette dimension fortement politique, souveraine au sens, c'est vraiment le souverain qui crée la monnaie, qui définit l'institution monétaire. Je crois que si on fait de l'histoire, on regarde, on voit très bien qu'à chaque fois la monnaie est une création du politique, du souverain. Les premières pièces de monnaie, je rappelle juste rapidement pour les auditeurs, se souviennent peut-être que les plus anciennes pièces de monnaie, les premières, hein, donc qui ont les petites rondelles de métal avec une empreinte certifiant la valeur, d'une valeur libératoire de la pièce, pas la valeur du contenu métallique, c'est Crésus, au VIe siècle avant notre ère, en Lydie, donc en Asie mineure. Crésus, qui récupère le fameux roi Crésus, qui récupère des paillettes d'un mélange naturel d'or et d'argent, ce qu'on appelle l'électrum, dans le fleuve le Pactole. Ces noms qui sont restés évocateurs. C'est lui qui invente la frappe monétaire, littéralement, avec une fonction très très simple. La monnaie est destinée à être émise par le roi pour qu'on paye les impôts dans cette monnaie. C'est-à-dire le circuit monétaire n'est pas un circuit, c'est pas pour le commerce, c'est fondamentalement une opération fiscale. C'est la monnaie mise en circulation par le roi pour que, à terme, au bout d'un certain moment, les impôts soient payés dans cette monnaie.
Donc la politique monétaire précède l'unification du territoire.
Alors, dans le cas de Crésus, non, le royaume était constitué et a été, la monnaie a été un outil de consolidation du territoire. C'est pas la collectivité au sens vague d'Orléans, c'est vraiment la construction politique par le pouvoir politique. Hein, faut pas avoir peur des mots. Et dans le cas français, l'unification du territoire monétaire a été un des principaux instruments, je dis bien un des principaux instruments liés à la fiscalité, mais c'est la fiscalité dans la monnaie du roi, d'unification du territoire du royaume de France. Hein, je dis pas national, encore une fois, j'essaie de limiter ce mot pour le XIVe siècle, ce serait un peu anachronique. Le mot nation n'a pas ce sens-là à l'époque. Et ça, c'est un processus qui commence dès Saint-Louis, dès Louis IX, avec l'idée, la loi. Hein, là, je ne parle pas d'idées vagues. Ce sont ce qu'on appelle des ordonnances. Hein, c'est des grands textes qui sont lus à travers le royaume. Il y a des agents, des crieurs publics qui crient, qui annoncent les lois. Et tout le réseau des agents royaux fait prêter serment aux différentes personnes, aux différents responsables des métiers, des organisations de métiers, qui à leur tour sont chargés de faire appliquer au sein du métier ces lois. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment des dispositions organisatrices. Et Louis IX est le premier qui demande que le denier tournois et le denier parisis circulent dans tout le royaume. Et soit reçu partout avec cette précision. Donc là, on retrouve un élément qui confirme ce que disait André Orléans, en soulignant qu'il doit être pris à la même valeur, même si les pièces sont un peu usées. Tant qu'on peut reconnaître la pièce, alors il faut imaginer que les pièces médiévales sont quand même et anciennes, sont plus fragiles, hein, il y a du métal qui se perd, mais tant que la pièce est reconnaissable, elle doit être acceptée à sa valeur nominale, et pas au poids du métal. Donc il y a cette opposition constante entre une monnaie qui a une valeur libératoire et une marchandise de métal. Et même l'opposition, il y a des textes du XVe siècle, des textes royaux qui disent très fortement que les monnaies étrangères ne sont acceptées qu'en tant que marchandise. C'est pas de la monnaie, c'est de la marchandise. On les pèse et elles valent ce que valent leur contenu de métal.
Si on vous comprend bien, ce n'est pas l'économie marchande qui crée la monnaie, contrairement à ce que disait André Orléans.
Non, la monnaie rend possible l'économie marchande. Les choses fonctionnent dans l'autre sens. Il y a évidemment des réseaux marchands qui ont leurs propres outils. C'est aussi le point est important à comprendre. Un des éléments cruciaux aussi du règne de Philippe le Bel, c'est un peu la fin de l'époque des forts de Champagne, qui ont été pendant toute une époque XIIe, XIIIe siècle, la Champagne a accueilli six fois par an des grandes foires qui étaient le lieu de contact entre les marchands italiens et flamands ou anglais, qui faisaient donc de la Champagne et de de l'Île-de-France, une région essentielle au commerce européen. Or, pour certaines raisons, il y a à la fois des ouvertures de routes commerciales d'Italie vers l'Allemagne à travers les Alpes qui ne passent plus par la France, et les bateaux génois contournent par Gibraltar et peuvent arriver en Flandre sans non plus avoir besoin de passer par la France autour de 1300. Enfin, c'est au même moment. Donc il y a aussi ce basculement, et au même moment, de sa femme qui était comtesse de Champagne, le roi de France hérite le comté de Champagne, et la Champagne donc, est intégrée à la France. Il y a aussi cet élément qui est très intéressant à observer, c'est la construction du territoire se fait à un moment où la France est un peu à l'écart, enfin, a beau être la puissance dominante en Europe, mais se trouve à l'écart des circuits commerciaux. Donc il y a une monnaie des marchands, il y a des monnaies utilisées par les marchands qui sont notamment, principalement les monnaies italiennes, les monnaies d'or de Gênes ou de Florence, et donc la monnaie du roi est en concurrence avec ces monnaies. Donc c'est un autre type, c'est pas, je veux pas imposer l'idée qu'il y aurait uniquement la monnaie créée par le roi qui fonctionne. Il y a bien sûr des circuits monétaires, et les monnaies des communes italiennes ont leur propre logique, hein, qui est une logique d'expansion commerciale extérieure, qui est tout à fait différente de l'idée d'un royaume régulé par une monnaie unique qui circulerait dans les limites du royaume, qui serait imposée à tout le monde.
Et alors quelle est l'idéologie royale qui préside justement à la construction de la monnaie, Sylvain Piron ?
Alors c'est l'idée que le roi a pour mission d'assurer la protection et la prospérité de son peuple et qu'il agit pour le bien commun de son peuple. Donc quand il obtient des profits sur la monnaie, au début, hein, donc le premier affaiblissement de la monnaie en 1295, le roi est lui-même assez anxieux, il promet de rembourser les personnes qui subiraient des dommages du fait de l'affaiblissement. Il y a des ecclésiastiques qui pensent que c'est un péché, donc Dante n'est pas du tout le seul à penser que c'est quelque chose de très grave, et le roi dans son testament donc le prend très au sérieux. Donc c'est au nom de la défense du royaume, de la protection du royaume, qu'il peut procéder à des mesures exceptionnelles. Et progressivement, ce qui se met en place, c'est l'idée que non, c'est le bien commun du royaume qui compte, et qu'au fond, les ajustements monétaires dépendent du bien commun et pas uniquement de la question de la guerre, même si c'est celle qui suscite les affaiblissements principalement. Donc il y a ce roi protecteur, garant de l'unité du royaume, et qui veut imposer son pouvoir sur l'ensemble du royaume. Donc c'est ce qui permet aussi la fin de toutes les monnaies des seigneurs qui sont à l'intérieur du royaume et qui avaient conservé un droit de frapper, d'émettre des deniers. Et progressivement, toutes ces productions locales sont suspendues pendant un certain temps, puis à force d'être suspendues, effectivement, ces monnaies s'éteignent. Et l'autre élément qui est très très intéressant à observer, c'est l'idée que, au fond, toutes les richesses du royaume sont potentiellement destinées à être converties en monnaie. Plusieurs fois, on a des ordres qui nous paraîtraient un peu extraordinaires aujourd'hui. Le roi oblige tous ses sujets à apporter leur vaisselle d'or, une partie de leur vaisselle, de leurs objets précieux en argent ou en or, dans les ateliers monétaires pour être fondus et transformés en pièces de monnaie. Donc, il y a aussi le pouvoir du roi s'étend jusque sur les trésors, sur les biens privés de ces sujets. Ce n'est pas un impôt au sens strict, mais c'est une opération qui à la fois alimente la circulation monétaire et fournit un profit au roi, puisque les pièces sont émises à une valeur supérieure à celle du prix d'achat du métal.
Et vous l'avez dit, Saint-Louis avait déjà lui-même mis en place une forme de politique monétaire à travers une ordonnance royale en 1263. Quelle a été l'influence de Louis IX sur son petit-fils Philippe le Bel sur le plan monétaire ?
Sur le plan monétaire, c'est pas sur Philippe le Bel, c'est sur tout le monde. C'est-à-dire que Saint-Louis donne l'idéal d'une bonne monnaie. Et les protestations sont de revenir à la bonne monnaie de Saint-Louis. C'est en permanence ce qu'on entend, c'est un souvenir d'un âge d'or. Alors Philippe le Bel est très lié à cette idée que la continuité avec son grand-père qui l'a fait canoniser, un grand-père qui est parti à la croisade, qui est mort à la croisade, donc qui a donc voué sa vie à la défense de la croix.
Il partage avec lui la piété.
Il y a bien sûr une piété, mais de façon très très différente. Il s'affirme comme un roi très chrétien, il veut revendiquer cet héritage de sainteté pour la maison capétienne, et il dit « je suis le roi très chrétien », donc c'est aussi un élément dans son conflit avec le pape, et non sans raison, il considère que Boniface VIII n'est pas un pape très chrétien, hein, ça a été assez avéré, et l'affrontement a été tel qu'après la mort de Boniface VIII, Philippe le Bel a insisté pour qu'il y ait un procès posthume, un procès pour hérésie, faire condamner, confirmer ces accusations d'hérésie qu'il avait lancées contre le pape. Donc c'est un roi qui se pense plus chrétien que le pape et qui agit donc de façon, enfin, qui se décrit comme très chrétien. Mais la monnaie de Saint-Louis...
Et sur l'âge d'or de la monnaie, oui.
Voilà, c'est autre chose, c'est cette question de l'affaiblissement, il faudrait revenir à la bonne monnaie. Or, la bonne monnaie, la monnaie forte, ça c'est vraiment des discussions qu'on a connues en France avec le franc fort de Rémy Barre, c'était la bonne monnaie, c'est une monnaie au fond qui est favorable aux possesseurs de rente, et donc aux grands seigneurs, aux ecclésiastiques qui veulent une monnaie forte. Le peuple, les salariés sont très contents d'avoir une monnaie affaiblie en réalité, et c'est un avis monétaire qui a été donné dans les années 1340 qui dit très clairement le peuple veut une monnaie faible, les marchands veulent une monnaie moyenne et les seigneurs veulent une monnaie forte. Donc c'est vraiment les questions sociales sont extrêmement claires, et le roi promet de revenir à la bonne monnaie en échange d'un impôt qui serait accordé par une assemblée, et les rares moments donc quand il arrive en 1305 à revenir à la bonne monnaie, ça provoque de telles émeutes, parce qu'effectivement quand des loyers étaient payés en monnaie faible, et s'il faut payer nominalement les mêmes sommes mais versé dans une monnaie forte qui coûte beaucoup plus cher, c'est dramatique pour les salariés parisiens notamment, avec de vraies émeutes pour des questions monétaires. Donc c'est une chose extrêmement délicate, et c'est progressivement que se fait l'apprentissage de le bon réglage. Et donc dans mes études sur ces questions-là, il me semble que le moment vraiment intéressant, le moment clé, c'est 1311, parce qu'on est à un moment, alors le roi a vraiment affirmé son pouvoir et est le seul maître à bord, ça c'est très clair. Plus aucun baron n'ose le contester. Les guerres sont à peu près calmées. Il est en position de force aussi par rapport à la papauté. Mais c'est surtout l'administration qui s'est améliorée, qui a compris le mode de fonctionnement et qui impose un certain nombre d'éléments. Et donc le premier affaiblissement, celui qui donnait le sentiment d'une falsification, c'était la même pièce de monnaie qui changeait de contenu métallique, et donc les différentes émissions de la pièce prenaient des valeurs différentes. Et donc sur les pièces minérales, c'est aussi un point important à noter, il n'y a jamais d'indication numérique.
Alors, on va pas aller trop vite en besogne, Sylvain Piron, parce qu'on va parler de ça dans la deuxième partie. Mais comment la politique menée par Philippe le Bel va-t-elle conduire à l'arrestation des Templiers ? On en parle dans un instant. La Pacem dominée par Arvo Part, un chant entonné par les chevaliers de l'ordre du Temple avant d'aller à la bataille. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et notre voyage économique à l'époque de Philippe le Bel au début du XIVe siècle se poursuit. On a vu qu'il y avait une volonté du monarque Sylvain Piron de reprendre la main sur les circuits monétaires. La monnaie, finalement, devient un moyen de marchandage, notamment dans la négociation avec les contribuables.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, vous employez du vocabulaire contemporain qui n'est pas tout à fait adapté. C'est avec les représentants des villes ou les grands seigneurs qui peuvent accorder les impôts, les prélèvements. C'est pas le contribuable directement, il n'y a pas de représentation des contribuables, de cette façon-là, mais effectivement, c'est l'échange, et ça, ce sera constant, et ça dure pendant des siècles, cet échange entre maintenir une bonne monnaie en échange d'un impôt. Sans quoi le roi affaiblit sa monnaie pour se payer directement sur la production monétaire.
Et il y a même une assemblée de prélats qui est créée, mais qui ne va pas jouer le rôle de contrôle qu'elle aurait pu jouer.
Alors c'est compliqué, oui, les assemblées, ça c'est un des gros problèmes du XIVe siècle français. Contrairement à ce qui s'est passé en Angleterre, où ces assemblées de prélats et de barons deviennent un parlement qui joue un rôle de contre-pouvoir face à la monarchie, en France, ces assemblées sont réunies plus ou moins régulièrement, il y en a quand les rois en ont besoin, mais elles n'arrivent pas à s'institutionnaliser et à jouer donc un rôle de contrôle, à vérifier que les promesses sont accomplies, sont tenues. Donc il y a un autre moment, peut-être qu'on y viendra plus tard, au milieu du XIVe siècle, qui a aussi un point très intéressant du point de vue monétaire, un retour de ces grandes assemblées où elles ont essayé de maintenir leur propre continuité, mais ça n'a pas non plus fonctionné.
Et en parallèle, une administration est créée pour contrôler les mouvements monétaires, puisque le roi interdit l'export des matières précieuses et l'import de monnaie étrangère.
Oui, alors c'est donc dans les techniques qui sont utilisées, c'est vraiment des choses qu'on invente au fur et à mesure pour alimenter la frappe. Pour alimenter la frappe monétaire, on interdit la circulation de pièces étrangères qui doivent être toutes percées, portées soit à l'atelier monétaire, soit chez les changeurs. Les changeurs sont un groupe qui joue un rôle de plus en plus important dans ces opérations, qui sont établis donc à Paris, le pont au change. Dans toutes les villes, il y a des lieux où sont réunis les changeurs, qui sont là pour récupérer les pièces interdites et mettre en circulation les nouvelles pièces. Et c'est eux qui alimentent les ateliers monétaires. Donc c'est ce circuit-là qui permet donc de récupérer du métal. Alors l'interdiction de sortie du territoire, c'est quelque chose qui paraît exagéré, mais en réalité, il y a vraiment eu une mise en place de ce qu'on appelait les ports et passages, donc une administration encore assez légère, mais qui essayait de contrôler les points de sortie du territoire du royaume pour vérifier que personne n'emportait trop de métal. Après, les règles ont été ajustées, on a autorisé des quantités minimales pour les voyageurs, on pouvait avoir, mais c'est vraiment une sorte d'un équivalent de pratique qu'on a connue au XXe siècle, de limitation de la sortie de monnaie du territoire national.
Et on l'a dit, le roi a pratiqué à partir de la fin du XIIIe siècle la technique de la dévaluation monétaire, ce qui lui a permis de dégager des revenus très importants, mais au sein de la population, le mécontentement grandit au point d'entraîner un soulèvement en 1306.
Alors, les soulèvements, c'est plutôt pour le retour à la bonne monnaie qui pourrait être le soulèvement. C'est très complexe comme situation, comme élément. Il faut aussi avoir en tête, pour éviter les anachronismes, que la société n'est pas totalement monétarisée hein, comme la nôtre. La plus grande partie de la vie se passe sans opération, sans transfert de monnaie. L'autoconsommation locale est très forte. Il y a une partie des prélèvements qui se font encore en nature.
Il n'y a de la monnaie que dans les villes, pas dans les campagnes.
Un petit peu dans les campagnes, aussi pour des raisons fiscales, mais quand même beaucoup moins. Par contre, des salariés sont payés en monnaie dans les villes, tout à fait. Et il y a aussi dans les campagnes des circulations de reconnaissance de dette. Donc tout ne se joue pas sur la question de la pièce de monnaie, mais c'est vraiment une question urbaine, effectivement, et une question liée aussi au paiement des salaires. Donc et des loyers. C'est vraiment les deux facteurs sur lesquels jouent les effets des politiques monétaires. Donc globalement, comme je disais tout à l'heure, les artisans, les travailleurs urbains sont plutôt favorables à des monnaies faibles. La difficulté est les conditions du retour, comment renégocier les loyers, les salaires, les dettes au moment du retour à une monnaie forte. C'est ça qui cause des tensions et éventuellement des émeutes.
Et le roi essaye de mieux contrôler les circuits monétaires aussi en passant par le biais des baillis et sénéchaux qui doivent traquer les établissements clandestins qui fabriquent la monnaie.
Oui, alors ça, les faux monnayeurs, il y a beaucoup de légendes sur le... Il y en a eu plus au XVe siècle qu'au XIVe. Au XIVe, j'ai pas l'impression que... Enfin, on n'en voit pas beaucoup apparaître. C'est pas une question dominante. La question, c'est plutôt donc d'imposer... Et on voit apparaître un peu le souci de Crésus, et ça, c'est, on voit très clairement l'effet de la Chambre des comptes qui impose des règles, et donc je ne sais très sens, qui est le moment où il y a toute une série de règles qui essayent de définir quel doit être le fonctionnement correct d'une monnaie dans le royaume. Il y a des nouvelles pièces qui sont très bien identifiées, comme étant nouvelles, avec des types tout à fait nouveaux. Toutes les anciennes doivent être, ce qu'on dit, décriées. Ce sont les crieurs qui crient la mise sur le marché de nouvelles pièces de monnaie. C'est eux qui annoncent aussi le décrit des pièces. Donc les pièces décriées doivent être percées, apportées chez les changeurs. Les pièces étrangères sont interdites. La disposition essentielle est qu'il faut respecter la valeur nominale de la pièce. Alors que auparavant, le désordre était que différentes pièces avaient différentes valeurs et que on s'y reconnaissait plus entre quel était le gros qui valait jusqu'à 40 sous. Donc il y a des valeurs très très fluctuantes des pièces de monnaie. Là, la définition, c'est vraiment les pièces ont une valeur nominale fixe.
C'est-à-dire qu'on exclut toute référence directe à un équivalent métallique.
Alors il n'y a pas de c'est ni référence à l'équivalent métallique et ni fluctuation. La monnaie n'est pas une marchandise. La monnaie est ce qui définit les autres prix. La monnaie doit, ce qu'on dit, courir. C'est le mot qui est employé à l'époque et qui est très intéressant aussi. Donc, qui veut dire courir au sens de, elle circule partout. Elle a cours. Donc, elle court. Et c'est le roi qui donne cours aux monnaies. Et les monnaies doivent être prises. On dit prises et mises. Donc, c'est-à-dire, mises, donc, payées et reçues, pour la valeur que lui a donnée le roi. Et tout le monde et l'ensemble du pays doit prêter serment de respecter cette valeur. Et c'est ça l'élément pivot de la définition de la politique monétaire, d'une politique monétaire. Et on apprend aussi un peu plus tard à calculer ce qu'on appelle le pied des monnaies, c'est-à-dire de trouver des références à la fameuse mythique bonne monnaie de Saint-Louis pour essayer de voir jusqu'où on s'en écarte, hein, puisque ce qui définit une pièce de monnaie, c'est la quantité de métal qui est contenue, qui est à la fois donc le poids de la pièce et la qualité de l'alliage. Donc c'est ces deux éléments qui définissent le pied de la monnaie. On invente des techniques qui permettent de comparer, mesurer les monnaies avec cette idée que la monnaie n'est pas une marchandise, la monnaie est quelque chose qui a un prix défini, une valeur libératoire tout à fait définie et fixe, qui ne fait pas objet de spéculation, etc.
Philippe le Bel va alors chercher à créer une monnaie royale de référence, une monnaie d'or.
La France s'est risquée au bimétallisme, c'est-à-dire une monnaie d'or et une monnaie d'argent. Jusque-là, les seuls à l'avoir tenté, c'étaient les Italiens. Mais les Italiens ont avec l'Orient une balance économique, commerciale, qui est équilibrée. Donc, quand ils achètent en Orient les denrées, les grandes denrées du trafic international, ils les paient en fournissant ce que eux produisent, notamment des draps. La France n'a pas grand-chose, presque rien à exporter vers l'Orient. Donc la France paie en numéraire. Et tout ce que la France importe, c'est autant d'argent qui quitte le royaume. Alors, les Anglais sont beaucoup plus malins. Ils ont retardé d'un demi-siècle leur biométallisme. Les Allemands s'y refusent aussi. Philippe le Bel, Saint-Louis avait tenté, mais Philippe le Bel décide, pour des raisons de prestige, parce que frapper la monnaie d'or, c'est ce que faisaient les empereurs romains. Il décide d'avoir une monnaie d'or, mais le résultat, c'est une très grande difficulté à équilibrer les deux types de monnaie, et par conséquent, il n'y a pas fausse monnaie. C'est une monnaie qui n'est pas bonne, ce n'est pas une fausse monnaie.
L'historien Jean Favier, chez nos confrères de France Inter, ce n'était donc pas une fausse, mais peut-être une mauvaise monnaie, Sylvain Piron ?
Non, mais comme on a dit, c'est les ajustements se font en fonction des situations, des circonstances, de la des nécessités. On peut pas, c'est comme la question du franc fort français, une question effectivement un peu idéologique dans cette référence à une bonne ou mauvaise monnaie. Non, sur la question de l'or, effectivement, enfin, Jean-Claude a tout à fait raison. C'est une question de prestige, mais c'est aussi un élément très très distinctif du roi de France. De vouloir avoir ces deux monnaies, c'est très complexe, effectivement. Le rapport entre or et argent n'est pas non plus maîtrisé très bien, et les pièces d'or, elles, ont tendance à devenir des marchandises, donc avoir un cours qui fluctue plus que les monnaies d'argent, ou les petites pièces dans lesquelles il n'y a quasiment plus de contenu métallique précieux. Mais c'est une dimension tout à fait essentielle et qui continuera dans tout le XIVe siècle. Les rois de France veulent frapper une monnaie d'or et avec cette question de l'ajustement entre les deux monnaies qui n'est pas le même problème exactement que le problème de l'affaiblissement de la monnaie d'argent.
En ce début du XIVe siècle, Philippe le Bel va affronter le nouveau pape Boniface VIII. Comme on commençait à le dire, l'objectif c'est d'affirmer la suprématie du pouvoir royal sur le pouvoir papal, Sylvain Piron.
Oui, j'allais dire très précisément, c'est la question des ecclésiastiques. C'est qui a le pouvoir sur les églises du royaume de France. Est-ce que tout le clergé du royaume de France obéit d'abord au pape ou est-ce qu'il obéit d'abord au roi? C'est la question pratique qui est posée. C'est vraiment autour de cet enjeu-là. Et donc, la question de la taxation, est-ce que le roi peut taxer son clergé ou inversement, est-ce qu'il peut tolérer que le clergé envoie les impôts qu'il doit à Rome? Donc c'est vraiment une question financière qui est en jeu, mais une question d'autorité, de supériorité. Et une question donc qui est posée par le roi de France, d'autant plus fortement qu'il ressent que ce pape n'est pas tout à fait un pape, comme je dis, très chrétien. Il y a vraiment des rumeurs qui circulent sur les hérésies du pape, sur des pratiques magiques, sur le fait qu'il ne tient pas grand compte de la vérité des dogmes de la foi. Et le roi se pose en plus chrétien que le pape. Donc c'est un affrontement qui joue à beaucoup d'échelles et qui produit une série de traités effectivement politiques très très intéressants sur la question théorique de la suprématie du pape sur le roi ou du roi sur le pape. Et donc avec des échanges de traités, donc c'est vraiment l'apparition de la première réflexion politique très intense exactement autour de 1300.
Et la guerre que Philippe le Bel va mener aux Templiers, Sylvain Piron, s'inscrit aussi dans ce rapport de force avec Rome ?
Pas directement avec Rome, mais effectivement oui, c'est dans cette question d'être le seul maître dans son royaume. Et de ne pas tolérer une organisation religieuse militaire. Donc l'ordre du Temple, il faut le rappeler, c'est un ordre religieux et militaire à la fois, qui a été fondé pour protéger le Temple de Jérusalem après la conquête de Jérusalem à la fin du XIe siècle, après les premières croisades. Or, à la fin du XIIIe siècle, la Terre Sainte a été perdue par les chrétiens. Il n'y a plus aucune possession en Terre Sainte, on n'a que Chypre qui est le dernier bastion où sont les Templiers. Mais il y a des commanderies de Templiers à travers tout l'Occident. Et la question se pose de la légitimité de cet ordre militaire qui est puissant, qui joue un rôle aussi. Donc il y a des forteresses, y compris à Paris, ce qui est maintenant le square du Temple à Paris, c'était le lieu où était établie cette forteresse du Temple. Et cette forteresse du Temple, traditionnellement, sert de lieu où est gardé le trésor du roi.
Ce sont les gardiens du trésor et non pas les banquiers, comme on peut entendre parfois, on dit que c'est parfois les banquiers du roi.
Non, pas du tout. Ce sont effectivement les gardiens du trésor. Philippe le Bel récupère en 1295 au Louvre, donc dans une forteresse royale, son trésor physiquement, mais il revient après un petit peu plus tard au temple. Donc ils ne sont pas banquiers, ils ont une activité de banquier par ailleurs, comme ce sont ils ont un réseau international, ils peuvent servir et eux-mêmes pratiquent parfois des opérations de crédit, mais par rapport au roi, ils ne sont pas du tout financiers. Et le but de l'opération n'est pas financière, et c'est vraiment une opération, disons, politico-religieuse, pour montrer qu'il ne peut pas y avoir d'autres pouvoirs dans le royaume. Et alors, c'est aussi une grande machination, c'est peut-être une des premières grandes théories du complot qu'on ait connues en Occident. C'est une rumeur qui dit que les Templiers, on peut localiser qui serait parti de la région d'Agen vers 1305. Les gens mal intentionnés disent que les Templiers pratiquent des rituels de reniement du Christ en crachant sur la croix et avec des pratiques obscènes.
Ce qui n'a jamais été avéré.
Qui n'a jamais été avéré, qui a été avoué sous la torture. Et donc c'est une dénonciation qui est faite. Le roi demande au pape de faire une enquête. C'est le pape qui, théoriquement, a l'autorité sur un ordre religieux. Le nouveau pape Clément V, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'est pas un pape français du tout, c'est un Gascon qui est fidèle au roi d'Angleterre.
Mais qui est désormais à Avignon.
Oui, à Carpentras plutôt qu'à Avignon, mais qui est effectivement donc dans le comté avignonnais. Et donc Clément V veut prendre son temps, lui ne croit pas du tout à cette rumeur, et pour aller vite, Philippe le Bel ordonne l'arrestation de tous les Templiers du royaume de France. Et c'est là où on voit la puissance. Si on veut mesurer l'apparition d'une administration forte, c'est aussi l'opération de police qui est réalisée, puisque...
Alors justement, on va en parler, Sylvain Piron. Je voudrais juste avant cela que l'on entende un extrait d'une fiction de France Inter sur cette vaste arrestation qui demande en effet une préparation minutieuse.
Nous sommes le 14 septembre. Les baillis et les sénéchaux auront un mois à compter d'aujourd'hui. Un mois pour préparer l'opération. Et la lettre au bailli de Rouen arrivera plus vite que la lettre au sénéchal de Beaucaire. Or, vous le savez, il y a quelques centaines de commanderies.
Ce n'est pas toujours grand-chose, une commanderie. Parfois, c'est une forteresse. Souvent, c'est une petite exploitation rurale offerte au temple, avec dessus deux ou trois templiers qui y vivent chichement.
C'est ce que les templiers ont trouvé pour ne pas devoir regrouper et entretenir tous les anciens. Pour que les vieux chevaliers se reposent et pour que les jeunes y attendent une destination durable, dont on voit mal ce qu'elle sera si on ne repart pas pour l'Orient.
Donc il va falloir s'occuper de toutes les commanderies.
Ce qui implique tout un travail dont je charge les baillis. D'abord, faire le recensement. Combien de maisons, quelles maisons, combien de templiers. Ensuite, aller y faire un tour pour étudier la topographie. Le matin de l'arrestation, il s'agira de ne pas se tromper de porte ou même de bâtisse.
L'arrestation des Templiers en 1307 est le signe d'une force administrative coordonnée, Sylvain Piron ?
Oui, c'est une opération terrifiante qui est donc organisée par le roi de façon mensongère, puisqu'il prétend avoir l'aval du pape, ce qu'il n'a pas. Les Templiers sont arrêtés et ils sont soumis à des interrogatoires sous la torture. C'est l'inquisiteur, donc c'est aussi un personnage très très intéressant, très peu connu mais très intéressant, un certain dominicain du nom de Guillaume de Paris, et ce dominicain est à la fois le confesseur du roi, celui qui prend soin de l'âme du roi, et l'inquisiteur du royaume de France. Alors, inquisiteur, c'est pas une grande charge, il peut y avoir plusieurs inquisiteurs, c'est une fonction qui est attribuée à l'ordre dominicain, et il y a différents dominicains qui peuvent être inquisiteurs. Mais c'est très intéressant de voir que le même personnage est à la fois confesseur du roi et inquisiteur du royaume, et que finalement le roi considère, prend autant soin de son âme que de son royaume, comme si c'était la même chose. Donc il faut extirper toute trace d'hérésie du royaume et de pratiques blasphématoires. Et donc c'est Guillaume de Paris qui couvre l'opération et qui ordonne de pratiquer la torture. Et sous la torture, la plupart des Templiers interrogés, on en a presque 150 je crois, qui sont interrogés en 1307, avouent des actes abominables dont on n'a absolument aucune trace de réalité. Hein, c'est vraiment aucune. C'est uniquement là où il y a eu torture qu'il y a eu aveu.
C'est une opération qui s'inscrit dans un contexte de perte de légitimité des Templiers aussi, Guillaume Piron, Sylvain Piron.
Oui. Les Templiers n'ont plus vraiment de raison d'être. Il y avait un projet qui était déjà en cours de réunir les Templiers avec l'autre grand ordre lié aux croisades, qui était l'ordre des Hospitaliers de l'hôpital, et qui va récupérer les biens des Templiers d'ailleurs. Mais ça, il n'y avait aucune raison de le faire de façon aussi brutale, et non plus de tomber dans ce scandale absolu d'un souverain qui détruit un ordre religieux. Donc ça pose énormément de problèmes, et d'autant plus que, non seulement il y a eu ces aveux sous la torture, mais alors que le procès après dure assez longtemps, c'est assez compliqué, et le roi et son confesseur inquisiteur, trouvant que les choses ne vont pas assez vite, en mai 1310, ont fait brûler une centaine à Paris. Donc en cours de procès, vraiment les choses ont été... c'est une opération tout à fait terrifiante, et c'est vraiment là où on voit la démonstration de force de ce pouvoir royal.
À propos de cette exécution des dignitaires des Templiers, écoutez le récit qu'en fait Guillaume de Nangis, moine de Saint-Denis et proche du roi, suivi d'un extrait de la série télévisée Les Rois Maudits, diffusée en 1972.
Le maître, qui vit le feu près, s'est dépouillé sans aucune peur. Et ainsi, comme je le vis, se mit tout nu en sa chemise, librement et à bon semblant, et jamais il ne fut tremblant. Combien qu'on le tire et bouscule, ils l'ont pris pour le lier au poteau, et lui se laisse lier sans crainte. Il lui lie les mains d'une corde, mais leur dit ainsi, « Seigneur, au moins laissez-moi joindre un peu mes mains, et vers Dieu faire une oraison, car c'en est le temps et la saison. Voici ma foi, et je vous prie que devers la Vierge Marie, dont notre Seigneur le Christ fut né, mon visage vous tournerait. » On lui a accordé sa requête, et si doucement la mort le prit, que chacun s'en émerveilla.
Chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits ! Vous serez tous maudits ! Jusqu'à la 13e génération ! Vorace !
Eh bien, mon frère, vous voilà content, je pense.
Non, mon frère, je ne le suis point, j'ai commis une erreur.
Vraiment, vous en convenez.
J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler.
Le moins que l'on puisse dire, Sylvain Piron, c'est qu'on a ici deux visions extrêmement différentes de cette exécution.
Mais oui, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru le roi. Et c'était un test de fidélité à qui faut-il rester fidèle. Et c'est à ce titre-là, effectivement, qu'il y a une vraie construction du pouvoir royal. Et donc d'un sentiment, vous parliez du monde national, il se construit en France par la fidélité au roi, avant tout. Et c'est la fidélité au roi, puis à l'idée de royaume, qui progressivement construira le sentiment d'unité, compliqué de la nation. Nous voyons les Bizarres, on voit bien que la fidélité au XVe siècle, c'est qu'après, va d'abord à la personne royale et à la continuité de la famille royale. Donc c'est cette fidélité au roi a primé sur la fidélité à une institution religieuse, effectivement, un peu assez vite.
Philippe le Bel meurt quelques années plus tard, en 1314. Quel héritage laisse-t-il, quel héritier, dans les années qui suivent sa disparition?
C'est trois fils, donc c'est le roi maudit meurt les uns après les autres. Puis c'est un neveu, Philippe VI de Valois, qui reprend le flambeau et qui reprendra pendant la guerre de Cent Ans, puisque c'est l'accession au trône de Philippe de Valois qui suscite directement la guerre de Cent Ans, et qui reprendra, lui, des dévaluations, donc des affaiblissements militaires, de façon tout à fait répétée, assumée, et qui, l'héritage est total, c'est-à-dire que l'administration maîtrise parfaitement les techniques de dévaluation, donc d'affaiblissement des pièces, puis de renforcement, de retour à l'union des forces, pour financer les guerres. Et Philippe de Valois prononce les mots que Philippe le Bel n'a pas prononcés directement en disant que le pouvoir sur la monnaie, sur l'émission, le contrôle de la monnaie, appartient à la majesté royale. C'est une prérogative de la majesté royale. Majesté étant un mot qui est synonyme encore plus fort, avec des connotations religieuses très fortes, de la souveraineté. Donc vraiment, cette affirmation de la souveraineté sur la monnaie, qui est un des éléments essentiels de la construction institutionnelle de la monarchie française sous Philippe le Bel, se renforce. Mais, c'est là aussi c'est intéressant de terminer là-dessus, ces mutations monétaires de la guerre de Cent Ans suscitent aussi donc un retour des assemblées représentatives. Et dans 1355-56, un moment passionnant où on voit pour une fois les universitaires s'engager en politique. C'est très rare dans l'histoire de France que les universitaires se soient engagés, mais ça a été le cas à ce moment-là. Et l'un des plus grands esprits de l'époque, Nicolas Rennes, qui appartient représente l'université dans ses assemblées, rédige un traité sur les monnaies, qui est le premier traité théorique sur la monnaie, et qui est là pour exprimer le fait que la monnaie appartient à la communauté et pas au roi, et qu'elle est vraiment établie pour le bien commun. Donc c'est vraiment un traité politique au sens strict, même s'il y a des éléments un peu techniques sur la monnaie, mais un traité vraiment très très intéressant sur la définition de la façon dont la monnaie doit fonctionner pour le bien de la collectivité, et que le roi ne doit pas changer, transformer la monnaie à sa guise en fonction des circonstances et éventuellement même en mentant et sans dire la vérité sur les opérations qu'il réalise. Donc toute cette continuité donc des discussions autour de la monnaie aboutit finalement à quelque chose qui est une vraie réflexion très intéressante et qui produit, donc ça se met dans les circonstances de la guerre de Cent Ans et la captivité du roi Jean le Bon en Angleterre pour payer la rançon, et quand le roi revient pour fêter la libération du roi, création d'une nouvelle pièce d'or qui est le franc. En 1360, la création du franc, qui est définie comme une monnaie forte, stable, durable, et qui restait effectivement dans son nom, la monnaie de pendant très longtemps. Voilà, donc il y a, du point de vue de la construction monétaire du royaume, l'héritage de Philippe le Bel est très grand, très fort et très durable.
You Live in My Phone, extrait de l'album de Someone qui paraîtra le 20 juin. Merci beaucoup Sylvain Piron d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, Turgot contre Necker, un duel au sommet de l'État. On en parle avec Antoine Lilti et Loïc Charles. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. I like the way you never change, even when I'm a...
people tend to get me down.